les informations, Lévin Winga.
Sécurité en RDC, International Crisis Group exige la réforme totale du secteur. Objectif, réussir les élections et pourquoi pas la transition au Congo. L'ONG de prévention des conflits le déclare dans son récent rapport. Arrêt de travail à l'Office des postes et télécommunications depuis hier à Kinshasa. À la base, le fameux code 243. Les agents de l'Office exigent l'annulation des lois qu'il octroie à l'autorité de régulation des postes. Nous parlerons aussi d'un grand architecte qui vient de nous quitter à Kinshasa. Il s'agit de Ferdinand Talangai. L'architecte à la base du Palais de Marbre est mort lundi à l'âge de 67 ans. L'œuvre de cet ancien professeur de l'IBTP dans ce journal. Bonjour, la réforme du secteur de sécurité en RDC doit être prioritaire pour le gouvernement de Kinshasa et de la communauté internationale. International Crisis Group l'a souligné dans son dernier rapport rendu public lundi dernier. Selon cette ONG de prévention des conflits, seul un environnement sûr permettra l'organisation des élections prévues au mois de juin prochain. La directrice du programme pour l'Afrique centrale de International Crisis Group a par ailleurs souligné que la sécurité à long terme est cruciale pour la réussite de la transition. Cathy Clément est au téléphone de René Capita.
Quant à l'organisation des élections, en fait, c'est la police qui, en vertu de la loi sur la sécurisation des élections, est la première responsable. Donc maintenant, en dernière minute, les donateurs tentent de recycler quelques policiers congolais. Ils le font seulement avec l'optique des élections. Alors, ça serait bien utile pour la plupart des Congolais qu'on en forme peut-être d'une façon un peu plus approfondie. Vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti du Lancet il n'y a pas très longtemps et qui estimait qu'il y avait à peu près 1200 Congolais qui décédaient par jour des suites de l'insécurité qui continue à régner dans le pays, particulièrement dans l'est du pays. La sécurité à long terme, pas simplement pour les élections, est un problème très sérieux qu'il faut prendre à cœur. La plupart de l'argent va vers l'armée plutôt que la police, mais on n'est pas vraiment en train de constituer une armée très solide. Donc si on veut sortir de l'engrenage d'une armée prédatrice et plutôt créer une armée qui protège la population, il faut mettre pas mal d'efforts sur l'intégration de la nouvelle armée plutôt que simplement sur la démobilisation.
Conditions de vie difficiles pour les épouses des militaires qui ont suivi leur époux au centre de brassage de Kamina au Katanga. Pas d'abri, pas de nourriture pour ces femmes et aucune structure de prise en charge n'est prévue, a souligné le commandant chargé des œuvres sociales à la base militaire. Le colonel Mona a d'ailleurs déclaré que le mouvement des militaires vers le centre de brassage se fait sans famille. Reportage Denise Maheu.
Ils sont 300 femmes qui ont rejoint leur mari actuellement au centre de brassage à Kamina. Selon le commandant qui est en charge des œuvres sociales, ces femmes viennent de Lubumbashi, Likasi, Kalemi, Kongolo, etc. Ces femmes sont accompagnées de leurs enfants. Le colonel Moma Kongolo indique que le bâtiment du mess des officiers qui a servi à ces familles comme abri est plein. Une trentaine d'entre elles passent la nuit à la Belle Étoile. En plus, pour se procurer à manger, certaines d'entre ces femmes vendent des cacahuètes ou du charbon. Les enfants ne vont pas à l'école faute de moyens financiers. Le programme de brassage des troupes ne prévoit pas la prise en charge des familles. Le commandant chargé des œuvres sociales précise que la solde des militaires en formation est payée dans leur milieu de provenance, ce qui signifie, selon lui, les familles doivent percevoir à la place de leur mari pendant la durée de la formation. Notons qu'en principe, les militaires doivent passer 45 jours au centre de brassage. Lubumbashi, Denise Maheu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la tension persiste toujours au camp de désarmement de Luvungi à Uvira au sud Kivu. Motif, plus de 700 candidats à la démobilisation attendent depuis deux semaines de rejoindre le centre d'orientation de la CONADER. Le chef du centre de désarmement est clair à ce sujet. Il ne peut donner des certificats de désarmement à 500 soldats venus sans armes. Le capitaine Limomé regrette aussi de ne pas obtenir les moyens nécessaires pour nourrir et loger ces éléments. Le point avec Fiston Goma.
Selon le capitaine Limomé, il n'y a toujours pas d'amélioration pour les soldats ex-Maïma de la 111e brigade qui attendent la démobilisation ou le désarmement à Luvungi. Voilà une semaine, le capitaine avait reçu l'ordre de regrouper ces éléments pour une distribution de vivres par la 10e région militaire, mais rien n'est arrivé, s'est-il inquiété. D'autre part, 500 soldats se sont présentés sans armes et les officiers de la 111e brigade qui pouvaient témoigner pour ces soldats sont déjà au centre de brassage de Lubérizi. Leur commandant, le colonel Baudouin Akabaka, a lui-même rejoint le brassage lundi dernier. Enfin, la maison Olive désirait prendre sa concession. Le centre de désarmement s'était installé dans ses locaux sans en aviser la société. Son représentant à Uvira, Mouloume Giovini, a demandé au centre de trouver un autre site pour le désarmement de militaires. Le capitaine Lemomé a assuré que des pourparlers seront engagés avec les commandants de la 10e région militaire, le général Mathieu Agoloa, qui était attendu ce mardi dans la plaine de la Ruzizi. Depuis Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
À Butembo, le commerce frontalier connaît de sérieux problèmes, conséquence de l'insécurité et des tracasseries administratives observées sur la route Butembo-Kassindi. Les trafiquants lancent un SOS. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Explication avec Étienne Mouindo.
Depuis le mois de juillet dernier, les trafiquants du Congo Est se plaignent des tracasseries administratives, multiplicité des taxes à la frontière. Pour M. Kakou Le Fossin, membre de cette corporation, le visa coûte cher. À chaque entrée, le commerçant paie $45. Et d'ajouter que les trafiquants déplorent également les sécurités sur la route de Butembo-Kassindi. Les coupures de route détroussent les voyageurs et pillent les marchandises des commerçants. Notons que le commerce frontalier entre le territoire de Lubero-Beni et l'Ouganda est assuré en grande partie par les petits commerçants. Ces derniers sont regroupés au sein de l'Association des trafiquants du Congo Est. Ils approvisionnent les marchés de Butembo-Beni en produits ougandais. Inversement, ils exportent le café, le bois, voire la banane par la douane de Kassindi. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
Autre tracasserie signalée, celle des détenus de la prison d'Ossio vis-à-vis de la population. Les paysans de cette localité à 17 km au sud de Kisangani se plaignent des pillages de leurs champs par les prisonniers. Puis, un paysan a été passé à tabac le week-end dernier pour s'être opposé au pillage de son champ. La maison carcérale d'Ossio abrite des condamnés et autres éléments jugés dangereux par l'administration pénitentiaire. Détail avec Jacques Moukonkole.
Selon des témoignages recueillis auprès des cultivateurs d'Ossio, leurs champs sont systématiquement pillés par des prisonniers. Ceux-ci s'arrogent le droit de prendre tout ce qui tombe sous leurs mains au cours de leurs visites intempestives, quasi quotidiennes, dans leurs champs. Explication d'un paysan. Les prisonniers ont envahi nos champs. Ils pillent sérieusement. Ils prennent des régimes de bananes, du paddy, des maïs, mûrs ou pas, ils emportent. Cela crée des difficultés dans nos familles. Les prisonniers d'Ossio sont devenus indésirables dans ces villages à cause de leur comportement. Le week-end dernier, un cultivateur a été même copieusement passé à tabac par des prisonniers pour s'être opposé au pillage de son champ. Témoignage d'un activiste de l'ONG Nelson Mandela pour la défense des droits humains. Ce cultivateur-là a été blessé par des prisonniers parce qu'il les avait surpris au moment où il voulait emporter un régime de bananes coupées dans son champ. Actuellement, il est interné au centre de santé Ossio pour des soins appropriés. Contacté par Radio Okapi, le directeur de cette prison a déclaré que les champs visités sont ceux qui se trouvent dans la concession de la prison. Il demande instamment aux cultivateurs y installés d'évacuer ces lieux. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Kinshasa, les agents de l'OCPT ont décidé d'arrêter de travailler depuis hier mardi. Ils exigent l'annulation des lois qui octroient à l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC, le droit sur le revenu du code 243 de la communication internationale en RDC. Ces lois sont contenues dans le projet de la loi budgétaire pour l'exercice 2006 qui vient d'être voté au Parlement. Pour le président national de la délégation syndicale de cette entreprise de l'État, la loi octroie l'exclusivité des droits sur les communications internationales et nationales. Lukusa Kazadi est au micro de René Capita.
Suite à la tricherie dont on fait montre les membres de le COFIN de l'Assemblée, ils ont cherché à modifier ce qui avait été décidé par l'espace présidentiel il y a de cela 7 mois, c'est-à-dire la clé de répartition, les frais de communication entrantes vers la RDC. Le CPT étant l'opérateur public, de par la loi, il lui aurait reconnu les droits de jouir de l'exclusivité des communications internationales et nationales. Et par suite, au manque à gagner que le CPT subit du fait de l'exploitation par les privés de ces droits, il y a une taxe qui est payée. Alors que l'entreprise a déjà amorcé un plan de redressement qui est basé sur les recettes générées par le code 243. Si le décret signé par le chef de l'État sera signé à l'arrêt de voie de l'OCPT, tel que même l'a dit son Excellence Madame la Ministre des PTT au niveau de l'Assemblée et du Sénat, nous demandons au chef de l'État de ne pas signer ce décret. Lui qui avait trouvé que pour résoudre la crise à l'OCPT où la grève était presque cyclique, qu'il fallait restituer à l'OCPT ses droits et que d'autres personnes qui cherchent à tout prix à ce que cette entreprise de l'État soit privatisée ont modifié ce qui avait été décidé par l'espace présidentiel sans que rien n'ait changé dans le secteur. Nous lui demandons de préserver cet outil, de faire justice à l'OCPT.
cap sur Bukavu, dans le sud Kivu, il y a eu destruction de 3 maisons samedi dernier par des militaires. Les motifs de cet acte restent inconnus en ce qui concerne les auteurs de ces méfaits. Le maire de la ville de Bukavu cite nommément 2 éléments de l'auditorat militaire, comme l'explique Dieudonné Bagalo.
Samedi dernier, des militaires armés arrivent à bord des 2 voitures-taxis et débarquent dans le quartier Kalengera à Bukavu. À coups de bêche et de pioche, ils détruisent un commerce, 2 maisons d'habitation et une église en construction située à côté de la société Pharmakina. Dans leurs accusations, les victimes pointent du doigt des militaires et la société Pharmakina à qui appartiendrait la parcelle sur laquelle sont érigées ces maisons. Contactés, les responsables de la société nient ces accusations. Du côté de l'armée, l'auditeur militaire dit également ne rien savoir de cette affaire. Mais ce mercredi, le maire de Bukavu cite nommément 2 éléments de l'auditorat militaire. Prosper Mouchobekwa.
C'est le lieutenant magistrat Douglas de l'auditorat militaire qui a donné ordre au major Mukonkole d'aller détruire ses maisons. Et donc c'est une décision anarchique. Parce que le major Mukonkole, qui est allé là-bas avec des militaires, n'a eu que ce document de réquisition aux fins d'enquête. Arrivé là-bas, il a commencé à détruire les maisons de ces pauvres citoyens sans en avoir reçu l'ordre. Déjà, à mon niveau, j'ai renvoyé ce major-là de la brigade d'assainissement. Il ne peut plus venir travailler avec nous.
En attendant que l'auditorat militaire achève son enquête pour savoir d'où est venu l'ordre, le maire de Bukavu a promis d'aider les familles à se reloger. Dieudonné Bagalwa, Bukavu, Radio Okapi.
Nous le disions à l'ouverture de ce journal, Ferdinand Talangay n'est plus l'architecte et professeur à l'Institut des bâtiments et travaux publics, est mort lundi dernier à Kinshasa à l'âge de 67 ans. Talangay était aussi un homme politique, sénateur à sa mort, il a été plusieurs fois ministre. L'homme est plus connu pour ses grandes constructions dans la capitale, notamment le Palais des Marbres. Son frère Joseph Talangay, directeur général de la chaîne de télévision Antenne A, rappelle quelques-unes de ses constructions. Il est au téléphone de Jean-Claude Toumbakamanga.
Il a participé à la construction de la foire internationale. Il y a le Palais des Marbres que tout le monde connaît très bien. Il y a le bâtiment des affaires étrangères, la salle de fête, les conférences des affaires étrangères. Il y a la Cour suprême de justice. Il y a le building de la rigueur, comme les gens appelaient ici. Il y a le building qui est en face de la régie des eaux sur le boulevard. Et bien d'autres, là où se trouve aussi Feltel. Il a d'autres constructions, bien sûr des villas, des cités, etc. Aussi bien à l'intérieur du pays pour la Banque nationale comme à l'extérieur, au Togo, au Congo et en Côte d'Ivoire, en Belgique aussi d'ailleurs.
Un accident de circulation s'est produit hier mardi sous le tronçon Bandundu-Ville-Cimetière de Lancélé. Bilan 7 blessés, dont 4 sont dans un état grave. Plus de précisions avec Niro Mukwa Kalombo de la radio Concorde nationale de Bandundu, une radio partenaire à Radio Capi. Il a été joint par Pelé Kipela Mondo.
Gérard Gifouza et Martin Bokenga, respectivement gouverneur des provinces et maire de la ville, se sont rendus à l'hôpital où les victimes sont gardées. Une enveloppe d'argent a été remise au médecin directeur pour des soins primaires. Ce dernier a fait remarquer aux autorités que l'hôpital général de Bandundu ne dispose pas des appareils sophistiqués pouvant permettre à examiner et traiter certains cas graves et difficiles à enregistrer. Finalement, les 2 responsables viennent de décider le départ des cas graves à Kinshasa. Tandis que le chauffeur qui a pris fuite après l'incident a été poursuivi et arrêté par la police à plus de 20 km de la ville de Bandundu. À l'heure où nous parlons, M. Bofis, le chauffeur est emprisonné par la police.